Bonjour chers auditeurs, je suis Louis Duruflet et bienvenue dans le podcast Tout sur Tout Histoire, le podcast énergie pour ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Biographies de personnages célèbres, événements marquants, épopées entrepreneuriales. Laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Ma journée a été éreintante. Je voulais à l'origine faire un épisode sur Claude Lévi-Strauss, l'éminent anthropologue français qui a influencé toutes les sciences sociales du XXe siècle. Je commence mes recherches, ressors mes livres de sociaux et je fonce à la bibliothèque pour trouver quelques ressources complémentaires. Je suis trop content. Ils ont tout ce que je veux. Des biographies, des livres sur les sciences sociales et même un recueil d'anecdotes sur la sociologie et l'anthropologie. Bingo! Je prends tout et je sors dans la rue. C'est là que je me rappelle que je dois acheter des jeans. Ce serait bête de tomber à court. Je commence par des friperies, mais impossible de trouver ma taille. J'enchaîne avec des magasins de vêtements bon marché, mais là encore, rien ne me va. Et ça continue. Je fonce voir un couturier. Il me dit que si je prends un jean trop grand à la taille, il ne pourra pas la réduire. La tuile! Et enfin, au détour d'une petite rue, je vois un magasin qui ne paye pas de mine. Je rentre, j'essaye le jean, il est parfait. Trop content, je regarde la marque. C'est un Lévi-Strauss & Co. Tiens, je ne le connais pas ce Lévi-Strauss-là. Et donc aujourd'hui, c'est de ce Lévi-Strauss, l'inventeur du jean, dont on va parler. Pas du tout de Claude Lévi-Strauss, le sociologue. Et vous comprendrez tout, oui je dis bien tout, sur l'histoire des blue jeans. Notre petit Lévi naît Lubbe Strauss le 26 février 1829 à Buttenheim, dans l'Allemagne actuelle. Buttenheim, c'est une petite commune de Bavière, qui était à l'époque un royaume indépendant. Et c'est une ville qui est restée toute mimi, avec un peu plus de 3000 habitants, des maisons colorées, et bien sûr, comme on est en Bavière, deux brasseries et de très longues chaussettes portées avec des sandales. Non, là je pars dans les clichés. Sa famille est de confession juive, et malheureusement, ça rendait leur vie à Buttenheim assez compliquée. Ils vivaient en complète marginalité, n'avaient pas le droit d'avoir des biens fonciers et ne pouvaient qu'exercer un nombre limité de métiers. Non seulement, à l'époque, plusieurs États d'Europe avaient un arsenal législatif antisémite qui s'est développé pendant le Moyen Âge. Pour la faire courte, la persécution des Juifs est liée à des raisons politiques et religieuses. Mais en plus, les communautés juives étaient régulièrement visées par des pogroms, c'est-à-dire des émeutes et des pillages qui visaient exclusivement les juifs. Bref, c'était horrible. En 1813, le ministre du roi de Bavière, Maximilian von Mongelas, publie un édit qui assouplit les conditions de vie des juifs de Bavière. Ils peuvent désormais exercer des métiers qui leur avaient été interdits et être propriétaires de leur maison ainsi que des terrains. Ça n'est pas tout rose pour autant. On les force à prendre des noms allemands, l'usage de l'hébreu est limité à l'unique sphère privée et il faut se déclarer expressément aux autorités sous peine d'être chassé du royaume. Pour se marier, il faut demander une autorisation spéciale qui n'est accordée qu'aux fils aînés. Les autres fils doivent trouver des solutions pour contourner la loi, comme par exemple se faire adopter par un couple sans enfant ou épouser une veuve. L'objectif est clair. Affaiblir les cultures juives et limiter un maximum l'établissement des juifs dans la région. Lubbe Strauss vit avec ses parents et ses six frères et sœurs dans un appartement de 3 pièces. Quand Lubbe est enfant, 4 de ses frères et sœurs s'exilent à Londres et à New York dans l'espoir d'une vie meilleure qu'en Bavière. Les États-Unis, à l'époque, acceptaient tout le monde pour y vivre le rêve américain. En 1846, Lubbe a 17 ans et son père meurt de la tuberculose. Sa mère se remarie rapidement, mais son nouveau mari meurt quelques semaines après le mariage. La poisse, quoi. Il se retrouve rapidement sans ressources et Lubbe, ses deux sœurs restantes et sa mère décident de partir aux États-Unis. Là, c'est une énorme galère bureaucratique qui commence pour réussir à monter leur dossier d'immigration. Le 17 mars 1847, sa mère, Rebecca Strauss, dépose un dossier où elle déclare qu'elle est deux fois veuve et qu'elle n'a plus de soutien financier. Mais qu'elle a deux enfants aux États-Unis qui pourront l'aider à s'installer et qu'en plus, son fils Lubb sera en âge de travailler et de les aider à s'installer. Leur dossier est finalement accepté et ils préparent le voyage. Et quel voyage ! Il faut déjà se rendre dans un port qui permette le voyage, comme Hambourg ou Cherbourg. Au plus court, 600 km jusqu'à Hambourg. Et au plus long, 1100 km jusqu'à Cherbourg. Et il n'y avait pas de TGV à l'époque. Une fois arrivé, il faut trouver des billets pour la traversée. Pas de réservation en ligne non plus, et faire attention à ses affaires en attendant le départ, parce que les vols étaient fréquents. Surtout quand tu trimbales toutes tes affaires pour aller déménager à l'autre bout de la planète. Et là, c'est l'embarquement dans des bateaux à voile. On bonde les bateaux au maximum, jusqu'à 5 personnes par mètre carré. Pour vous donner une idée, quand le métro est bondé et qu'on doit tous se serrer les uns les autres, on est à 4 personnes par mètre carré. Là, c'est une personne de plus. Et pour un voyage qui dure 40 jours si vous avez de la chance, 3 mois si les vents ne vous sont pas favorables. Sans parler du mal de mer. On se partage les poux, les odeurs et tout ce qui va avec. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait partager. En revanche, l'arrivée est plus cool. Aux États-Unis, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de contrôle au port d'arrivée. Toute la petite famille Strauss rejoint les deux frères de Lubb qui étaient partis quand il était enfant. Ils rejoignent donc Jonas et Louis. Jonas et Louis étaient déjà bien intégrés aux États-Unis. Ils parlent anglais couramment, ils ont américanisé leur prénom et ils sont devenus des citoyens américains. Les deux frères tiennent un magasin de tissus et de vêtements à New York qui fonctionne bien. Attiré par leur mode de vie, Lubb change son prénom en Levy et demande à son tour la nationalité américaine. Il en profite pour laisser de côté le S7, cette fameuse petite lettre en forme de B qui rend fou tous ceux qui veulent apprendre l'allemand. Heureusement, il existe une astuce. On peut remplacer le S7 par deux S. Donc, il change la manière d'écrire son nom et les Américains le prononcent plus Strauss, mais Strauss. En 1848, les États-Unis sont de plus en plus riches et de plus en plus puissants. Une rumeur court déjà dans tout le pays. Un Suisse, John Sutter, aurait trouvé de l'or en Californie, une province mexicaine sur le point d'être cédée aux États-Unis. Un afflux considérable de migrants accourt pour s'octroyer une part du butin. La famille Strauss ne veut pas rater cette occasion de s'enrichir. Mais en même temps, ils ont bien envie de garder leur magasin à New York. La famille va se mettre d'accord. C'est le petit dernier qui va partir pour faire du commerce. Cinq jours après avoir prêté serment de citoyenneté, le 31 janvier 1853, Levi Strauss quitte New York pour San Francisco. Il y arrive le 13 mars et récupère peu après une cargaison de marchandises que ses frères lui ont envoyées. Il ne veut pas ouvrir un simple commerce de détail. Ça rapporte pas assez pour les risques que ça demande. Les chercheurs d'or, ce ne sont pas des enfants de cœur. Lui, il voit les choses en grand. Et ce qu'il veut, c'est devenir le numéro uno de la vente en gros de tissus et de vêtements. À 24 ans, il fait le tour des villes du coin qui connaissent un boom de population. San Francisco, Sacramento et tous les villages en bord de rivières aurifères. Dès qu'on trouve de l'or quelque part et qu'une ville est fondée, il y va pour nouer un partenariat commercial. Il participe également aux événements de la communauté juive de Californie. Il connaît tout le monde, et tout le monde le connaît. Lévi-Strauss, les meilleurs produits de toute la côte ouest. On y trouve des vêtements, sous-vêtements, des bottes, mouchoirs et des rouleaux de tissu. Il s'enrichit tellement qu'il se permet d'envoyer à ses frères, en 1855, une énorme pépite d'or, estimée à 10 000 dollars. Ça fait 250 000 dollars d'aujourd'hui. À ce moment-là, il avait déjà envoyé à ses frères l'équivalent de 2 millions de dollars. En même temps, L'avantage des vêtements, c'est que tout le monde en a toujours besoin, qu'on soit riche ou pauvre. On peut pas aller au travail en slip. Enfin, pas dans mon travail en tout cas. En 1856, les affaires vont tellement bien qu'il demande un coup de main à sa famille pour l'aider à gérer tout ça. Sa sœur Fanny, sa mère Rebecca et son frère Louis viennent donc le rejoindre. J'ai parlé plus tôt de la violence des chercheurs d'or aux États-Unis. Et comme qui dirait, c'était le Far West. Je suis trop content pour une fois que je peux utiliser cette expression de manière littérale. Levy et son beau-frère, David Stearns, s'impliquent dans des comités de vigilance. L'objectif est non seulement de lutter contre la délinquance, mais surtout contre la corruption politique. Il ne faut pas oublier que les changements politiques étaient nombreux. La Californie était un État encore jeune au sein des États-Unis. Et habituellement, aux États-Unis, le pouvoir politique et le pouvoir économique sont séparés, au moins géographiquement. C'est même fréquent que la plus grosse ville d'un État soit économique et que la ville politique soit complètement méconnue. Par exemple, New York est la plus grosse ville des États-Unis, et de loin. Mais elle n'est même pas la capitale de son propre État. Pour briller en société, vous pourrez raconter que c'est Albany, la capitale de l'État de New York, ou que Sacramento est la capitale de la Californie, et pas du tout Los Angeles. Donc, pour lutter contre la corruption et organiser une vie qui les arrange, le comité de vigilance de Sacramento se réunit. Ils s'arrangent pour faire élire des chefs d'entreprise dans la plupart des villes, avec des résultats à l'éthique douteuse. Ces chefs d'entreprise nouvellement élus en profitent pour faire un peu ce qu'ils veulent, et notamment pour lyncher des Irlandais accusés d'être des délinquants. En 1857, le bateau à vapeur Central America sombre par 2300 mètres de fond au large des côtes atlantiques. C'est pas le Titanic, mais le bilan est terrible. Plus de 400 personnes perdent la vie et plus de 11,5 tonnes d'or tombent au fond de l'océan. Et là, je vous entends me dire bah, « Louis, elle est bien triste cette histoire. Mais pourquoi tu nous racontes cette histoire de bateau qui coule ?» Eh bien, c'est parce qu'une partie de cet or disparu appartenait aux frères Strauss. Littéralement un naufrage financier. Lévi-Strauss met quelque temps à se relever de cette catastrophe financière et commence à diversifier ses fournisseurs pour assurer sa marchandise et réduire les coûts. En 1861, la guerre de sécession éclate. Enfin, chez nous, on l'appelle la guerre de sécession, mais aux États-Unis, on l'appelle la guerre civile. Elle provoque la mort de 620 000 soldats et on ne connaît pas vraiment le nombre exact de victimes civiles. C'est dire si c'était un conflit violent. En gros, certains États du sud-est des États-Unis font sécession et se déclarent indépendants. Eux, ils veulent garder une grande indépendance par rapport au gouvernement fédéral et notamment maintenir l'esclavage. Cette guerre est un énorme traumatisme pour les États-Unis. La Californie se trouve au sud-ouest du pays, donc à l'autre bout du conflit, et n'a surtout pas envie de voir son économie flancher à cause d'une guerre civile. Le gouvernement californien décide de rejoindre les États du Nord et s'appuie sur les comités de vigilance pour maintenir la loi et garder un commerce florissant. Bref, pendant toute cette période, Lévi-Strauss s'enrichit énormément et devient un acteur incontournable du commerce californien. Maintenant, permettez-moi d'introduire un nouveau personnage à cette histoire. Jacob David, restez avec moi, vous allez bientôt comprendre qui il est, et surtout, pourquoi il a de l'or dans les doigts. Jacob est né en 1831 à Riga, la capitale de l'actuelle Lettonie, mais qui était alors dans l'Empire russe. Lui aussi, il a fui la répression des Juifs de Russie pour venir s'installer aux États-Unis. Comme Lévi-Strauss, il travaillait également dans la mercerie, mais en tant que coupeur et tailleur. Jacob ne travaillait pas en Californie, mais dans le Nevada, un état voisin avec pas mal de mines. Et les mineurs ont besoin de tissus hyper robustes et solides pour pouvoir travailler. Faites un petit tour dans le nord de la France pour voir comment travaillaient les mineurs de charbon. On se rend vite compte qu'il fallait des matières qui résistent. Jacob passe régulièrement commande à Lévi-Strauss pour de la toile Canva, un tissu super résistant en coton qu'on trouve souvent par exemple sur les voiles de bateaux. Il fabrique des pantalons qui ne devaient pas être très agréables à porter, mais qui étaient sacrément résistants. Un jour, une dame vient chercher des pantalons pour son mari. Elle a carrément honte, son mari ne peut même pas venir chercher ses pantalons lui-même parce que tous ses pantalons sont troués. Et probablement pas juste troués au niveau du genou, si vous voyez ce que je veux dire. Et je le comprends, le bougre. J'ai craqué un jour mon pantalon en ville. Comme ça, je marchais tranquillement, et d'un coup, un gros crac ! Et me voilà en pleine rue avec une partie de mon slip exposée. J'ai foncé dans un magasin et j'ai dû en racheter un autre en urgence. Je pense que la vendeuse en rigole encore à l'apéro aujourd'hui. Cette brave dame, donc, demande des pantalons solides, des pantalons qui tiennent bien. Et Jacob David a l'idée de mettre des rivets au niveau des poches et des endroits fragiles. Les rivets, vous savez, ce sont les petits boutons au coin des poches de votre jean. Et ça tient mieux qu'une couture, croyez-moi. Rapidement, tous les clients de Jacob en demandent, et il sent le filon. S'il parvient à en fabriquer en masse, il sera riche et prendra une retraite heureuse. Première étape, le dépôt de brevet. Et ça coûte cher, un dépôt de brevet. Et surtout, la femme de Jacob David n'a pas envie qu'il dépense tout son argent dans un brevet pour un truc qu'il ne pourra pas faire fructifier correctement. Parce que Jacob, c'est un tailleur à la base, plus qu'un homme d'affaires. Jacob pense alors à Lévi-Strauss. C'est vrai ça, c'est un honnête commerçant, il participe au comité de vigilance, tout le monde le connaît, et en plus, il est juif aussi. Et il n'oserait pas se retourner contre sa communauté, n'est-ce pas ? Jacob David envoie à Lévi-Strauss une commande de pantalon avec rivet et il y glisse un petit mot. L'histoire ne l'a pas gardé, mais on peut l'imaginer. « Cher Lévi, c'est Jacob. Merci pour tes tissus de super qualité. Mes clients sont bien contents. J'ai inventé un petit truc super. C'est un pantalon, mais plus solide. Regarde les petits rivets. » Smiley clin d'œil. « Est-ce qu'on peut faire un truc ? Tu payes pour déposer le brevet ? » Et on fait 50-50 sur les ventes. Et ce qui serait vraiment super sympa, c'est que tu me voles pas l'idée. Mais tu vas pas me faire ça, hein ? Allez, bisous, Jacob. Et pour le coup, Lévi-Strauss a été sympa. Enfin, honnête plutôt. Il aurait pu facilement s'approprier l'idée. Et on aurait complètement oublié le nom de Jacob David. Ça n'aurait pas été le premier à le faire, d'ailleurs. Bon, en bon businessman, il s'est quand même gardé la part du lion. Il n'y a que Lévi-Strauss Co., le nom de la société, qui avait le droit de vendre des pantalons sur la côte ouest. Et sur le reste du monde, ils font 50-50. Jacob David est OK, et l'aventure des jeans commence! Rapidement, c'est un énorme succès. En même temps, c'est un vêtement de travail résistant et pas trop cher. À la base, il était vendu comme une salopette cintrée, à porter par-dessus les vêtements. Et c'est petit à petit qu'on s'est mis à le porter sans pantalon en dessous. Et bon, il paraît même qu'il y a des endroits où on porte le jean sans rien en dessous. Mais c'est pas tellement le bon endroit pour en parler. Je vous laisserai vous-même effectuer vos recherches. En 1873, il laisse tomber le tissu canvas et se tourne vers un autre tissu bien solide, le denim. Allez, petit point de vocabulaire, ça faisait longtemps. Alors dans l'ordre, pourquoi le denim ? Vous avez pas une petite idée ? Bon, et si je vous parle d'arène ? Eh oui, c'est ça. On dit le denim parce que c'est un tissu qui vient de la ville de Nîmes. Denim, denim. Enfin, son procédé de fabrication du moins. À l'origine, c'est un tissage très serré de soie et de laine qui crée cette résistance. Au XVIe siècle, de nombreux protestants français ont fui les guerres de religion et sont partis vers les Amériques avec le savoir-faire du denim. Et petit à petit, c'est le coton qui a pris le pas sur la laine et la soie pour fabriquer ce tissu. Le procédé de fabrication reste le même. Du fil bleu et du fil blanc, tissé hyper serré. Ça, c'est pour le denim. Et pour le blue jean alors ? Plus dur à deviner celui-là, hein ? Le blue jean, c'était tout simplement une partie du tissu nécessaire pour fabriquer le denim, la toile bleue. Ça, c'est pour le blue. Et le jean, Ça vient de la ville de Gênes, en Italie. Genova pour les intimes. Gênes, Gine, Gin. Et on dit ça parce que c'est de là d'où provenait cette toile bleue. Et la teinte de bleu, elle vient de l'indigotier. Mais bon, ça, vous le savez déjà si vous avez écouté notre épisode sur la couleur bleue. Jacob David et Lévi-Strauss fabriquent ces jeans. Et ce sont quasiment les mêmes qu'on trouve aujourd'hui. Des rivets en cuivre, du fil orange pour les coutures et de la belle toile bleue bien résistante. Si le succès a été aussi important, c'est parce que les ouvriers ont pu enfin acquérir un pantalon de travail qui résiste. En 1876, un concurrent, H.W. King et compagnie, se met à fabriquer des pantalons similaires. Lévi-Strauss intente un procès, qu'il gagne, mais il réfléchit vite. Si un concurrent arrive à fabriquer ces jeans, bientôt, ce seront plein d'autres qui vont le faire, et peut-être pour moins cher. Il réfléchit à une manière de garder le marché, et il a une idée de génie. Enfin, de génie. Ils vont travailler sur la publicité. Lévi-Strauss fait donc créer un logo, qu'il met sur la belle étiquette en cuir qu'on retrouve sur tous les Levi's 501. Et pour le 501, eh ben, on a perdu les archives. Ça reste aujourd'hui un mystère. Mais on suppose que c'était le numéro de lot de tissu de Nîmes d'où vient le premier jean fabriqué. Bref, c'est un carton monumental et Lévi-Strauss devient multimillionnaire. Il en profite pour être généreux avec sa famille et achète une grande maison à San Francisco pour qu'ils puissent vivre tous ensemble. Ils vivaient à 14 dedans. Ça en fait des paires de jeans. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Le jean reste un incontournable de la garde-robe, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Probablement d'ailleurs parce que, encore aujourd'hui, c'est un pantalon robuste et pas cher. D'ailleurs, tous les modèles existent. Coupe droite, skinny, pattes def, slim, bootcut, régulière, short, en chemise, en veste. Bref, même si, comme moi, vous avez des jambes de rugbyman, ne perdez pas espoir. 5 ans. C'est le nombre d'années que j'ai mis à trouver des jeans qui me vont. Un coup, c'était trop serré à la taille, ou alors trop large au niveau des hanches, ou bien encore trop serré au mollet. Mais à force de persévérance, j'y suis parvenu. En 1902, Lévi-Strauss a 73 ans et il commence à se plaindre de sa mauvaise santé. Il meurt alors entouré de ses proches. Lors de ses funérailles, tous les commerces locaux ont fermé pour voir ce grand chef d'entreprise partir dans sa dernière maison. Tout au long de l'écriture de cet épisode, je m'attendais personnellement à trouver des squelettes dans le placard de Lévi-Strauss. Mais au final, ça avait l'air d'être un homme d'affaires plutôt honnête. Il a eu quelques campagnes de publicité choquantes et racistes, comme celle où il annonce n'employer que des ouvriers blancs, et que c'était du coup un gage de qualité. Mais de son vivant, il est revenu dessus, et il est même devenu un défenseur de la cause des Chinois de Californie auprès du gouvernement fédéral qui voulait les empêcher de travailler. Il a également été un grand philanthrope auprès de la communauté juive. Par ailleurs, il a beaucoup milité pour que les ouvriers aillent voter. Il a notamment fait fermer toutes les usines de San Francisco les jours d'élections présidentielles, alors que ça n'était pas obligatoire à l'époque. En réalité, c'était un vrai libéral de son temps. Il croyait dur comme fer à la loi du marché et a tout fait pour que ça se déroule de manière la plus fluide possible. Un ouvrier heureux est un ouvrier productif, n'est-ce pas ? Résumons. Lévi-Strauss est né Lubb Strauss dans le royaume de Bavière en 1829. Pour fuir la répression juive et sans revenu, il immigre aux États-Unis avec sa mère et ses sœurs. Ses frères ont là-bas une mercerie et il travaille avec eux. Lors de la ruée vers l'or, il va en Californie pour faire du commerce de gros. Et c'est un énorme succès commercial. Pendant la guerre de sécession, il cherche à maintenir un commerce florissant en soutenant l'Union. C'est le camp qui a gagné la guerre. Un jour, un de ses clients, Jacob David, invente un pantalon en toile avec des rivets pour renforcer le tissu. C'est l'invention du jean. Cherchant à le développer, il demande à Lévi-Strauss de déposer le brevet. et il commercialise alors le pantalon le plus célèbre du monde. Bon, d'ailleurs, j'ai mis ce fameux jean Lévi-Strauss dont je vous parlais en début d'épisode pour faire cet enregistrement. Et promis, la prochaine fois que j'écris un épisode, je ne me laisserai pas perturber par une session shopping. Merci d'avoir suivi avec style cet épisode sur Lévi-Strauss. Cet épisode a été écrit par Tracy Wilson et Holly Frey pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class. Il a été réécrit, adapté et interprété par Louis Duruflé. À la production et à la réalisation, Amel Almia. À la rédaction en chef, Maud Ventura. Tout sur Tout Histoire est un podcast Energy et iHeart Podcast. Retrouvez tous les épisodes sur energy.fr, sur l'app d'Energy ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt.